Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast bien évidemment, et j'ai exagéré sur le vous car oui, beaucoup m'ont fait remonter que dans mes épisodes j'alternais entre le vous et le tu, et que ça créait une incohérence. C'est surtout que je vais pas vous le cacher, quand j'écris, moi-même j'alterne les phases où je me dis, de toute façon la seule personne à écouter ce podcast est ma mère, donc on se dit que j'ai le droit de la tutoyer quand même, et les phases où je me dis, non il y a aussi les amis de ma mère donc il faut que je les vous voie. Et puis finalement, il s'avère que ce podcast intéresse plus de monde, et du coup, je tenais à dire que je te remercie.
Je déconne !
Merci à tous, sincèrement, du fond du cœur, encore une fois. Dans cette émission, on n'avait pas encore parlé d'un pan du cinéma français qui est beaucoup trop sous-estimé, à tort, et c'est le cinéma d'animation. Pourtant, on a du beau monde en France avec des films comme Le Roi et l'Oiseau, La Planète Sauvage, Persepolis, ou encore récemment, J'ai perdu mon corps qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020. Vraiment, voyez tous les films que je viens de vous citer, si c'est pas fait, c'est des bijoux.
C'est de toute beauté !
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation que j'ai vu, que j'ai revu, que j'ai re-revu, que j'ai re-re-re-revu.
Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée.
Pour la simple et bonne raison que c'est un film de mon enfance, et c'est un film que j'ai plus qu'adoré. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Prince et Princesse de Michel Oslo. Wouhou ! Un film positif !
Un baiser suffirait.
Prince et Princesse est donc un film d'animation sorti en l'an
2000,
qui dure seulement un petit peu plus d'une heure. Le film se sépare en 6 parties correspondant à 6 contes qui nous sont racontés. Le principe c'est quoi ? Un garçon, une fille et un homme plus âgé, je sais pas s'ils ont un lien de parenté, sont dans ce qui s'apparente être une salle de ciné, mais ça pourrait très bien être un théâtre aussi. C'est assez flou à ce niveau-là. Et ils vont imaginer 6 histoires donc, et aujourd'hui je spoil parce que j'en ai besoin pour mon analyse, mais regardez le film, c'est important. Du coup passons aux différents contes.
Numéro 1 !
La Princesse des Diamants. C'est sûrement mon segment préféré, et avant de revoir le film pour cette chronique, c'est celui dont je me rappelais le plus. Une espèce de pirate, vu son chapeau, en tout cas un gros beauf. Et son jeune associé se balade dans un champ où on trouve plein de diamants. Pour occuper le temps, le pirate veut cramer des fourmis.
Parce que... ouais.
Mais son associé l'en empêche et fait tomber son briquet dans l'herbe et le perd. Ils finissent par trouver un diamant et le pirate le touche. Surgit donc alors du sol une princesse transformée en statue, tenant un sablier sur un hôtel gardé par un dragon. Elle explique qu'elle est atteinte d'une malédiction et que pour la briser puis l'épouser, il faut retrouver les 110 autres diamants qui forment son collier avant que le sablier ne s'écoule. Ce qui est impossible, soyons clairs. Sinon la personne ayant touché la perle sera transformée en fourmi, sachant qu'elle ne peut pas être aidée. Notre pirate beauf ne retrouve que 11 et se retrouve donc transformé en fourmi. La princesse conseille à son jeune associé de ne pas tenter le diable avant de disparaître. Évidemment, il trouve un diamant, il hésite puis décide de le toucher. À la moitié du temps, il se retrouve avec 3 pauvres diamants et son sort semble scellé. Mais c'était sans compter sur les fourmis qui décident de l'aider et de rassembler les 108 diamants qui lui manquent. Il jette un diamant dans la gueule, sa bouche, hein, pas son visage, du dragon pour le laisser passer et mettre le collier autour du cou de la princesse. Il la libère de sa malédiction, les fourmis reprennent leur forme humaine et acclament le désormais prince. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin.
Numéro 2.
Le garçon des figues. Un garçon est pendu en haut de son figuier, qui ne vit plus d'ailleurs, quand un homme vient se moquer de lui en mode haha, trop nu ton figuier, moi demain je vais voir la reine et elle va me donner plein de sous-sous en réparation de mes histoires de voisinage. Le garçon s'endort en disant qu'il va rêver de la princesse, idée retranscrite par la forme des étoiles dans le ciel. Le garçon se réveille, on va l'appeler Jim, tiens. Jim se réveille et son figuier est plein de figues. Et il décide donc qu'il fera déguster à la reine sa seule figue mûre. Destination le palais où l'on voit l'homme qui se moquait de lui se faire envoyer bouler et repartir avec 100 coups de bâton. Jim arrive avec sa figue, la reine la mange et elle l'adore. Jim se voit offrir 10 pièces d'or et de bronze. Le lendemain, rebelote, figue mûre, palais, cadeau, dodo. Et ça commence à titiller l'intendant de la reine qui décide de piéger Jim en lui disant que la reine trouve qu'il a une haleine qui pue l'ail et lui conseille de mettre un masque ou 40 coups de bâton. Les jours se suivent et se ressemblent puisque jour suivant, figue mûre, palais, cadeau. La reine demande à son intendant pourquoi Jim portait un linge. Il lui répond qu'il trouve qu'elle pue l'ail. Qu'est-ce qu'il a avec l'ail sérieux? Jour d'après, figue mûre, palais. La reine rédige une lettre au trésorier pour que le garçon ait ce qu'il mérite, ce qui agace l'intendant qui veut donc piéger Jim en lui disant hors du palais qu'il a été chercher pour lui sa récompense. Lui donne 3 sacs de pièces d'or et part avec le mot de Jim pour la salle des trésors. L'intendant donne le message au trésorier où il est écrit « Grand trésorier, faites couper la tête au porteur de ce message ». Il s'exécute et tue l'intendant. La nuit passe et Jim vient au palais à la surprise de la reine. Elle appelle l'intendant qui ne vient pas, normal il est mort hein. Jim comprend et explique tout à la reine, mais à coup de pas, elle le nomme nouvel intendant du palais et Jim lui promet de continuer de lui ramener les filles. Fin.
Numéro 3.
La sorcière. Un roi promet la main de sa fille à celui qui réussira à rentrer dans le manoir de la sorcière. Un jeune homme, qui s'appellera John, se promet de réussir, ce qui provoque les moqueries des villageois. Un premier prétendant essaye d'entrer avec un bélier, ce qui se solde par un échec. Un autre essaye avec un plus gros bélier, même résultat. Puis un autre avec des canons qui détruisent une partie du château, mais une fois de plus c'est raté. Un autre avec des échafaudages, mais le manoir s'élève et s'est perdu. Autre prétendant, avec des archers et des flèches enflammées, une partie du château prend feu, la sorcière active donc l'arrosage automatique du château, oui, il n'y a aucune logique depuis le début.
Je ne comprends pas.
Pendant ce temps-là, John réfléchissait à une stratégie et finit par tenter quelque chose. Il vient à la porte du manoir, toque à la porte et demande s'il peut entrer. La sorcière lui ouvre la porte et lui signifie que c'est le premier à lui demander la permission d'entrer. Elle lui fait visiter le château et mon dieu, c'est le TARDIS. Les gardes viennent finalement chercher John pour l'amener à la princesse sur ordre du roi. John remercie le roi mais décide de rester avec la sorcière. Fin.
Numéro 4.
Le manteau de la vieille dame. Une vieille dame montre un joli manteau à une de ses amis pendant qu'un homme cachait les guettes. La dame qu'on appellera Pam sort quand l'homme qu'on appellera Sam la suit et arrive finalement à sa hauteur pour lui proposer de la ramener chez elle sur son dos. Parce que pourquoi pas. Elle accepte et Sam évidemment la piège et l'amène ailleurs pour lui voler déchirer son manteau. Sauf que la femme, c'est Popeye, ultra forte. Du coup, elle serre les jambes,
hein.
Et menace de lui briser les côtes.
Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang.
Sam veut donc la ramener chez elle, mais elle le force à marcher toute la nuit pour découvrir des paysages tous plus beaux les uns que les autres, jusqu'au mont Fuji. Il explique sur le trajet à Pam que s'il voulait son manteau, c'est parce qu'il était pauvre et qu'il voulait se couvrir dans le but de l'apitoyer. Elle n'en a que faire. Sam va même pleurer. Finalement, il la ramène chez elle. Il s'écroule de fatigue. Pam tient à lui offrir tout de même un petit cadeau pour la remercier de ce périple avant qu'il se quitte et lui laisse donc son manteau. Fin.
Numéro 5.
La reine cruelle et le montreur de Fabulo. Un Fabulo est une créature magique qui émet une mélodie majestueuse qui va charmer la reine qu'on va nommer Jeanne. Elle demande à son montreur Jean combien il en veut pour l'acheter. Il lui répond qu'il lui donne car ce soir il sera soit mort soit aux côtés de la reine. Elle lui demande s'il est candidat donc à l'épreuve de la cachette. Qu'est-ce que c'est, vous me direz? Eh bien, si la reine le retrouve avant le coucher du soleil, il se fait désintégrer comme un Dalek. Oula, ça fait deux refs à Doctor Who en un épisode, joli. S'il n'est pas trouvé, il devient l'époux de la reine. Jeanne le somme de renoncer, mais il veut la reine. Elle prend donc le Fabulo qui chante pour elle et s'en va. De retour au palais, elle cherche les candidats grâce à un outil de détection archi sophistiqué. Elle repère un, puis deux, puis trois, et les tue. Vient le tour de Jean, l'outil dysfonctionne, ne le trouve pas, et le soleil se couche. Jean était en fait juste à côté de la reine déguisée en Fabulo, de quoi faire frissonner au Marcy.
Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé.
Il se dévoile à Jeanne, qui est bouche bée, les deux s'enlacent et s'embrassent. Fin.
Numéro 6.
Prince et princesse. Un prince et une princesse s'aiment. Le prince demande un baiser, ce à quoi elle rétorque qu'ils ne sont pas mariée. Elle accepte finalement, ils s'embrassent et le prince se transforme en crapaud. C'est le choc. Le prince qu'on appelle Will veut redevenir un homme et embrasse donc la princesse Leia.
C'est de l'humour ça. C'est bien, ça me plaît. C'est drôle toi. Hein.
Qui a refusé dans un premier temps parce qu'embrasser un crapaud au Perk et elle se transforme en limace. S'ensuit une série de French Kiss où ils se transforment respectivement en papillon, en menthe religieuse, en poisson, en tortue, en rhino. Rhinocéros, plus teckel, girafe, éléphant, baleine bleue, cochon, vache. De quoi faire rougir l'arche de Noé. Ils s'embrassent encore et là Will se transforme en princesse. Une horreur pour lui. Réembrassade et Leia se transforme en prince. Sacrilège. Mais bon, finalement décide de repartir au château, de se marier et de ne rien dire aux autres. Et fin ! C'est tout pour cette nuit.
Bonne nuit les petits.
Bon, clairement s'il y a un film qu'il faut montrer à ses enfants, c'est celui-là. Parce que non seulement son animation en ombre chinoise change des standards de l'animation, et Dieu que j'aime ça, oh là là ! Au-delà de ça, chaque histoire a une morale, une valeur qu'on veut enseigner aux enfants. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'en plein milieu du film, il y a une entracte d'une minute où il est inscrit, on fait une pause d'une minute et on peut parler. Chaque histoire a une morale. La première, c'est si tu fais le bien autour de toi, il t'arrivera du bien, il faut savoir donner pour recevoir. La deuxième, c'est sois honnête et il t'arrivera du bien, le mensonge c'est pas nice. La sorcière, c'est la violence ne résout rien, faites l'amour pas la guerre. Le manteau, c'est il ne faut pas se fier aux apparences, si l'on est gentil, on est récompensé. La 5, les apparences sont trompeuses, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et la dernière, c'est un discours un peu anti-xénophobe sur le fait qu'il faut aimer son prochain, pas éprouver de la haine ou de la peur contre ce qui nous est étranger. La dernière, j'ai peut-être un peu suranalysé, j'avoue. Chaque histoire a une morale enseignée aux enfants, et ça c'est beau. En plus, la musique est incroyable, notamment le chant du Fabulo, qui est juste majestueux, je le redis encore une fois. On va répondre à un avis négatif sur le film. Florenté nous dit, idée séduisante, le dessin est très beau, mais magnifiques ombres chinoises, mais c'est tout ce qu'il y a à en retenir. 6 comptes de 10 minutes, faut quand même pas se moquer du monde, dommage. Alors là, pour le coup, je ne comprends pas bien le but du comment, du pourquoi, de l'objet de ce message.
Pourquoi faire ?
C'est pas parce que c'est 6 comptes de 10 minutes que c'est pas un film, je comprends pas le préjugé. Dommage, Florent, que tu aies des idées si arrêtées sur le cinéma, vraiment dommage.
Bichonnet, il faut finir !
Oui, pardon. Merci à tous d'avoir écouté le podcast, partagez sur tous vos réseaux, je vous aime, des bisous, à la prochaine.